les jardinières.
Si les marrons sont chauds, les jardinières aussi, la preuve avec une équipe au taquet ce matin. Bonjour Brian.
Bonjour Mylène.
Il est frais comme l'air extérieur pour nous donner des conseils en jardinage. Nous sommes en compagnie de Timothée Grisel. Bonjour Timothée.
Bonjour.
Timothée Grisel, vous êtes paysagiste et propriétaire de Timothée Grisel Paysages aux Verrières. Soyez le bienvenu pour cette avant-dernière émission de l'an 2024.
Mais merci beaucoup.
On reste au chaud et on parle jardin jusqu'à 8h. Merci d'avoir choisi les jardinières pour débuter votre week-end.
7h, 8h. Les jardinières.
La bise a soufflé cette semaine et les températures tournent autour du zéro. Difficile de trouver la motivation pour passer du temps au jardin. Heureusement, à l'intérieur, il fait chaud, en tout cas on vous le souhaite. On peut aussi prendre le temps de prendre soin de ces plantes. Alors Timothée, de quoi elles ont besoin durant l'hiver au chaud dans nos appartements, ces petites plantes ?
Alors bon, c'est sûr qu'il faut surtout veiller au courant d'air quand on aère sa maison, de pas qu'elle soit exposée directement au courant d'air, parce que ça peut être néfaste, surtout s'il fait très froid dehors. Après, il faut bien sûr bien veiller à l'arrosage, parce que avec souvent les chauffages au sol, nos pots sèchent beaucoup plus vite, donc elles peuvent avoir un stress hydrique un peu plus grand. Après, il faut pas oublier que c'est quand même l'hiver, les jours sont courts, donc c'est aussi une période de repos pour les plantes, même si les températures sont constantes pendant toute l'année dans les appartements. Donc ça peut aussi être une période un peu où on met moins d'engrais et puis où on peut aussi tailler comme les ficus par exemple. Enfin voilà, c'est un moment où on peut prendre un peu soin particulièrement de ces plantes.
Merci Timothée, vous êtes l'invité des jardinières jusqu'à 8h et vous êtes là aussi pour répondre aux questions jardinage de nos auditeurs. Composez le 0900 70 20 20 et vous pourrez poser vos questions en direct à Timothée. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo avec votre question en remplissant le formulaire disponible sur notre site. Et puis, troisième possibilité, nous écrire un SMS. Vous tapez « jardin » un espace suivi de votre question et de votre nom et vous nous l'envoyez au 939.
Dans la suite des jardinières, on va parler des plantes qu'on peut recevoir durant les fêtes, comme par exemple les étoiles ou les cactus de Noël. Ça sera dans quelques minutes.
7h, 8h, les jardinières.
Et si on offrait des plantes à Noël, pour savoir quelles plantes offrir et comment s'en occuper, nous sommes en compagnie de Timothée Grisel, paysagiste. Alors Timothée, on connaît tous la fameuse étoile de Noël avec ses feuilles rouges incroyables, mais ce n'est pas la seule qu'on peut trouver durant les fêtes.
Alors oui, effectivement, il y en a quelques-unes qui sont très en vogue. Il y a, vous avez parlé de la Marilis il y a quelques temps, donc ça n'a plus besoin de le présenter. Lui, donc, il est originaire plutôt d'Amérique centrale. Il y en a plusieurs qui viennent d'Amérique latine ou d'Amérique centrale, comme par exemple le cactus de Noël. C'est une plante grasse un peu retombante qui fait des fleurs en multiples clochettes de couleurs rose, rouge, aussi il y a des blancs. Et il y a aussi...
Sinon, un petit nom imprononçable, hein, ce cactus.
Ouais, le Schlumbergera.
Voilà.
Et puis, bien sûr, après, il y a aussi l'azalée. Alors lui, c'est plutôt un japonais ou un chinois. Donc ça, c'est comme des petits rhododendrons qu'on trouve. C'était assez à la mode dans les années 80-90. Maintenant, c'est un peu moins en vogue, mais ça reste toujours très élégant. Et puis, bien sûr, alors il y a aussi les cyclamen. Ça, c'est comme c'est des clochettes renversées roses, blanches, avec un feuillage panaché. C'était aussi très en vogue il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on en voit un peu moins, mais ça reste très élégant. Alors là, c'est plutôt du Moyen-Orient. Et puis, figurez-vous que nous avons aussi des fleurs de Noël locales qui sont les hellebores. Donc ça, alors c'est plutôt, on va dire, Tessin, bassin méditerranéen, un peu plus le sud de l'Europe. Mais elles font des belles fleurs blanches en clochette qui fleurissent justement à cette période, des fois un petit peu plus tard chez nous. Donc ça, c'est des locales, mais il y a aussi la version orientale qui est beaucoup plus exubérante et colorée.
Et puis il y a deux plantes qu'on peut confondre facilement aussi, c'est la rose de Noël et l'étoile de Noël, et pourtant elles sont bien différentes, Timothée.
Oui, absolument. Alors là, c'est plutôt une confusion, vu qu'il y a des Noëls partout dans les noms de plantes, on ne sait plus laquelle est quoi, mais c'est clair que alors, l'étoile de Noël, c'est vraiment un mémotechnique, ça fait ces grandes bractées, ces feuilles rouges, roses ou blanches, c'est selon. Donc quand on les regarde depuis dessus, on a vraiment cette vision d'étoile. Et puis les roses de Noël, alors je ne comprends pas tellement pourquoi on les appelle roses. C'est plutôt des clochettes qui regarderont vers le bas. Donc, si ça regarde en bas, c'est des roses. Si on regarde depuis le haut, c'est des étoiles.
Et parmi toutes ces plantes qu'on offre aux fêtes, est-ce qu'elles ont une signification spéciale?
Alors, bon... en fait, vu que c'est assez rare d'avoir des fleurs pendant les périodes de Noël, en fait, on a mis ces noms de Noël à beaucoup de plantes. Et après, il y a eu des significations qui sont venues en lien avec les fêtes. Donc, par exemple, l'étoile de Noël, c'est plutôt les vœux de joie et de célébration. L'hellebore, c'est plutôt la pureté, la nativité. Le cactus de Noël, c'est plutôt la fidélité, la longévité. Donc, c'est en général toutes des choses qu'on se souhaite pendant la période des fêtes. Donc, les significations sont souvent en lien avec la période de l'année dans laquelle on vit et dans laquelle elles fleurissent.
7h, 8h, les jardinières.
Il n'y a pas que les sapins à Noël, la preuve avec les roses de Noël, les étoiles de Noël ou encore les cactus de Noël. Ce matin, nous sommes en compagnie de Timothée Grisel, paysagiste aux Verrières, et on parle justement de ces plantes de Noël qu'on trouve facilement en jardinerie. Mais avant de les ramener à la maison, il faut la choisir. Alors comment on la choisit? Est-ce qu'il y a des choses à laquelle il faut faire attention?
Oui, alors comme c'est une période qui est quand même fraîche et humide, il faut faire très attention aux pourritures des collets, donc à la base des plantes. C'est souvent un des premiers lieux où les plantes se fragilisent. Et puis après, il y a aussi un point qui est important, c'est vraiment choisir où on achète ces plantes. Typiquement, les étoiles de Noël, c'est des plantes très fragiles, donc on peut voir aussi des signes de brûlure du froid sur les bords des feuilles. Donc moi, je privilégierais plutôt les fleuristes ou les petites jardineries pour acheter ce genre de plantes fragiles, parce qu'il y a un soin beaucoup plus grand qui est apporté. Puis comme c'est des plantes aussi qui ont besoin quand même de lumière. Si on est dans un local fermé, c'est des plantes qui sont très sensibles. Donc, dans les magasins fermés sans lumière, ça peut être un peu néfaste pour les plantes et puis péjorer leur durée dans le temps. Donc, voilà, ça, c'est vraiment les points hyper importants à faire attention au moment de l'achat.
Et puis, Timothée, à Noël, on aime bien tout ce qui brille. On trouve même des paillettes sur certaines plantes. C'est joli alors, mais est-ce que c'est mauvais pour la plante?
Alors, oui, c'est très mauvais pour la plante.
Oh non.
Oui, alors c'est souvent c'est sprayé, donc déjà on ne fait pas tellement attention à la respiration de la plante, donc ça peut péjorer la respiration de la plante, ça peut la faire carrément crever. Et puis surtout, après c'est plein de microplastiques qui finissent au compost, donc c'est vraiment pas terrible. C'est très joli, mais je trouve qu'il y a d'autres moyens de faire rendre brillant ces plantes de Noël que de sprayer des paillettes dessus.
Alors Timothée, même si ces plantes sont toutes de Noël, ça ne veut pas dire qu'une fois les fêtes passées, elles vont dépérir, rassurez-nous.
Non, bien sûr que non. Alors ça dépend bien sûr tout du soin qu'on leur apportera par la suite.
Ben justement, pour les garder, ces plantes de Noël, est-ce qu'il faut les rempoter facilement?
Alors, oui.
Rapidement, pardon.
Ça dépend. moi, je remporterai pas tant que la plante elle est en fleur, parce que ça lui provoquait un stress, alors que finalement elle a déjà été stressée par les changements de milieu, les trajets et tout. Donc plutôt faire une fois que la floraison est passée ou que les bractées de l'étoile de Noël se sont reverdies. Moi je ferais ça plutôt au printemps, quand il y a les démarrages de végétation. Après, c'est clair que si la plante a tout le temps soif, qu'elle est hyper compressée dans un pot, ça lui fera pas de mal d'être dans un pot plus grand.
Et là, on les achète, elles sont en fleurs, et vous l'avez dit, elles vont perdre ces fleurs. Est-ce qu'on peut les faire refleurir?
Oui, alors ça va tout dépendre de comment les soins. Je dis qu'il y a, un mais, c'est qu'elles elles refleuriront, mais pas forcément à Noël, parce que c'est des plantes qui ont un photopériodisme court, donc qui ont besoin des jours courts pour introduire leur floraison. Donc souvent, nous les jours, c'est vraiment vers Noël qui commence à être bien court, et du coup, elles fleuriront plutôt en février, mars. Donc, si on veut voir fleurir son étoile de Noël, il faudrait l'obscurcir, lui donner des nuits plus longues déjà au mois de septembre pour avoir des fleurs à Noël. Après, c'est sûr qu'il y a des plantes comme les azalées et puis les cyclamens, ils ont plutôt besoin d'une pièce un peu fraîche. Ils n'aiment pas le grand chaud des appartements pour les pérenniser. Et puis puis après, ben, bien sûr, les hellebores, alors ça, il faut les planter au jardin ou sur son balcon. C'est là qu'on aura les meilleurs résultats de nouvelles floraisons. Mais nouveau, ça sera plutôt janvier, voire début février, suivant l'altitude à laquelle on habite.
Puis est-ce que nos plantes de Noël, elles ont besoin d'être taillées ?
Alors, pas toutes. Je dirais que c'est surtout un nettoyage des fleurs. Typiquement, les hellebores, alors ça, il n'y a rien besoin de leur faire. Les étoiles de Noël, alors oui, c'est bien de les tailler au mois de mars, au moment où elles vont refaire des nouvelles pousses. Donc là, il faut vraiment y aller un peu, j'ai envie de dire, dardard, les pincer, en tout cas pincer toutes les extrémités. Et là, elles vont pouvoir repousser. Mais sinon, après, les azaler, c'est plutôt enlever les feuilles, les fleurs mortes et puis couper ce qui dépasse, donner la forme qu'on veut. Mais sinon, c'est vraiment léger les entretiens à faire.
Les jardinières.
Les jardinières vous accompagnent jusqu'à 8h et nous sommes en compagnie de Timothée Grisel, paysagiste et propriétaire de Timothée Grisel Paysages aux Verrières. Et ce matin, nous parlons des plantes de Noël, comme par exemple les poinsettias ou le cactus de Noël, avec son petit nom, le schlum. Ah, je ne vous ai pas ouvert le bon micro. Bergera, voilà, j'ai réussi.
Et pour poser vos questions à Timothée, vous pouvez nous appeler au 0900 70 20 20. Vous pouvez aussi remplir le formulaire sur notre site sous l'onglet émissions questions aux jardinières et joindre une photo à votre demande. Ou alors simplement nous écrire un SMS en tapant jardin, un espace suivi de votre question et de votre nom, et vous nous l'envoyez au 939.
Alors Timothée, ces plantes, vous l'avez dit en première partie d'émission, elles viennent d'Amérique du Sud ou d'Amérique latine. Est-ce que du coup, comme on ne les connaît pas, elles ne sont pas dans la nature, est-ce qu'elles pourraient être toxiques pour nos chats ou nos enfants ?
Alors malheureusement, oui, elles sont toxiques. Après, rassurez-vous, toutes vos plantes d'intérieur sont en majorité toxiques, donc ça ne nous empêche pas d'en avoir pour autant. Donc voilà, après c'est sûr que les latex de l'étoile de Noël, eh ben, ils sont irritants, il faut faire attention. Et puis bien sûr, il ne faut pas manger ces plantes. On risque de passer de mauvaises fêtes.
Et Timothée, pour l'arrosage, est-ce que ces plantes, elles sont gourmandes en eau ?
Alors, l'azalée, oui. C'est peut-être ça qui l'a rendue aussi un petit peu moins populaire. Elle a besoin de pas mal d'eau, mais par contre, elle n'aime pas l'eau stagnante. Donc, c'est un arrosage régulier, mais léger. Et puis après, ben, c'est sûr que c'est souvent des très grandes plantes dans des très petits pots. Donc là, il faut vraiment faire attention. Mais sinon, puis aussi, ben, une partie sont des plantes tropicales. Donc, ça, elles ont quand même besoin plus grand en eau. Après, c'est clair que le cactus de Noël, pour le coup, lui, il est pour les flemmards de l'arrosage, c'est la plante idéale.
Et puis peut-être, on a parlé de l'arrosage, on fait attention, mais comme pour une plante d'intérieur, elles n'aiment pas les courants d'air du coup.
Non, absolument. Donc ça, il faut faire attention, surtout avec l'étoile de Noël. Ça, c'est vraiment une plante qui souffre énormément des courants d'air, donc il faut faire attention. Après, il y a des plantes comme l'hellebore et puis les cyclamens. Alors eux, au contraire, ils n'aiment pas les trop grandes chaleurs. Donc si vous voulez les pérenniser dans votre appartement, j'avais mon ancien formateur qui disait à l'époque que le mieux, c'était entre les doubles vitres des vieilles fenêtres, où là elles se conservaient le mieux, mais malheureusement il n'y en a plus beaucoup dans nos appartements. Mais c'est vrai qu'elles préfèrent plutôt les situations fraîches, il ne faut même pas hésiter à les mettre sur le balcon à la fin de la floraison.
Et pour terminer, Timothée, nous sommes à quelques jours des fêtes, 10 plus précisément, si on devait vous offrir une plante de Noël, ce serait laquelle et pourquoi ?
Ah, alors moi j'aime beaucoup les hellebores orientaux, surtout ceux à fleurs picotées ou alors à fleurs doubles, parce qu'ils ont souvent des couleurs qui sont juste très chaleureuses, très chaudes et très belles, et c'est très exubérant comme fleur. Enfin, moi je trouve ça merveilleux dans un jardin en plein hiver, parce que justement après je peux les planter dans mon jardin, et puis je trouve que j'ai aussi ce côté éthique où je trouve chouette quand on peut replanter dans son jardin et puis que ça nous demande pas trop d'entretien. C'est aussi agréable. Et puis en fait, elles-mêmes, certaines, elles se remultiplient après dans son jardin, même en haute altitude. J'habite à 1200 mètres d'altitude, elles tiennent, elles perdent leurs feuilles, mais elles repoussent et elles font des fleurs au printemps. C'est juste magnifique.
7h, 8h, les jardinières.
7h44 chez les jardinières. On va répondre aux questions des auditeurs. Brian, on va peut-être rappeler comment nous joindre.
Et oui, vous avez toujours trois possibilités pour poser vos questions. La première, c'est de nous appeler. Vous saisissez de votre téléphone et vous composez le 0900 70 20 20, et vous aurez la chance de parler en direct avec Timothée. Deuxième possibilité, pourquoi pas vous rendre sur notre site internet sous l'onglet émission questions aux jardinières, où cette fois vous aurez l'occasion de joindre une photo à votre question. Ça peut être pratique pour illustrer un peu. Et puis, troisième possibilité, par SMS, vous saisissez de votre téléphone à nouveau. Vous rendez dans les SMS et vous tapez votre question que vous nous envoyez au 939. Il ne faut surtout pas oublier de commencer votre message avec le mot-code jardin.
Bien joué.
Merci.
On va prendre la question de Marie-Thérèse qui nous a écrit de Savagnier. Vous avez parlé samedi 7 décembre de ce qu'il faut laisser dans le jardin pour favoriser la biodiversité. C'était la semaine dernière en compagnie de Pierre-Yves Turcher. Ne faudrait-il pas rendre attentif qu'un trop grand nombre de chats présents dans le jardin nuit à la biodiversité? Alors, peut-être Timothée, vous avez un élément de réponse. Est-ce que les chats sont mauvais pour la biodiversité?
Alors, c'est sûr que pour les oiseaux et puis pour toutes les grenouilles, tous les petits animaux, alors c'est clair que c'est des prédateurs, donc ils vont pas se gêner d'attraper les proies faciles. Après, on peut aussi mettre en place des choses pour limiter un peu les chats dans son jardin, notamment pour les nichoirs, les protéger à la base par des barrières anti-chats ou il y a des ultrasons aussi. Mais après, il faut se méfier parce que les ultrasons, c'est aussi les hérissons n'aiment pas trop non plus, enfin les autres petites bêtes non plus. Donc après, voilà, mais c'est clair que on fait partie d'un milieu où il y a beaucoup de chats, et puis on doit apprendre à vivre avec, et puis on doit aussi apprendre à faire notre jardin en conséquence et pour le bien de tout le monde. Mais la nature est souvent bien plus forte qu'on peut se l'imaginer.
Merci beaucoup Timothée. On va enchaîner avec une deuxième question de Lucette de Cornol qui nous demande jusqu'à quand est-ce qu'elle peut laisser ses poireaux au potager.
Alors, jusqu'au gel, mais comme c'est difficile de le prédire, alors c'est sûr, en fait, le facteur limitant, c'est l'arrachage. En fait, si on a le sol qui est fin gelé sur 20 cm, ça va être compliqué de récolter ses poireaux. Après, il y a plusieurs techniques. On peut en arracher une série pour quelques semaines, et puis là, on les met dans un endroit hors gel, mais toujours bien à l'humidité. Ou alors, on fait un bouquet de poireaux dans un coin de son jardin qu'on couvre avec un seau, des feuilles mortes pour justement éviter que le gel n'atteigne le sol. Mais sinon, alors vraiment, il n'y a aucune contre-indication à laisser ses poireaux dans son jardin, surtout si on habite en basse altitude. Alors vraiment, les gels sont plus assez violents pour empêcher une récolte. Et puis, ils sont bien meilleurs, bien plus frais, et ils se gardent très bien jusqu'à la montée en fleurs qui a lieu début mai. Donc voilà, mais en général, on a fini ses poireaux d'ici là.
On a le temps pour les manger. On vient de recevoir une question de Damien qui nous dit « J'ai des avocatiers, donc des noyaux d'avocats qui ont germé. Ils sont devenus grands, il les a mis en pot, mais ils finissent toujours par mourir quand ils sont trop grands. Est-ce que vous avez un conseil pour avoir un bel avocatier?
Alors bon, les avocatiers, c'est une plante tropicale, donc ça aime bien quand même une atmosphère humide et chaude. Donc nouveau, on n'a pas tous des salles de bain avec des fenêtres où on pourrait mettre son avocatier, et surtout pas des salles de bain grandes pour accueillir un avocatier. Après, il faut pas oublier que c'est des arbres, et du coup ils ont besoin d'un substrat assez conséquent. Donc moi, je pense que s'ils viennent à mourir après un certain moment, c'est qu'ils ont épuisé les réserves dans le noyau, et puis qu'ils n'ont pas su trouver ce qu'ils avaient besoin dans l'environnement dans lequel ils sont. Donc peut-être qu'il faudrait essayer de les mettre à un endroit un peu plus ensoleillé, un peu plus proche d'une fenêtre. Et puis si c'est proche d'une fenêtre, bien veiller à l'arrosage. Donc ça peut être des facteurs qui font crever les avocatiers. Mais après, ça reste sinon quand même une plante qui germe facilement, et puis qu'on peut retenter l'expérience à foison. Mais après, c'est quand même une plante limitée au niveau de... C'est chouette d'avoir des avocatiers, mais en fait, à un moment donné, on ne peut pas les garder, ils sont trop grands. C'est difficile de les garder à taille humaine, si je peux dire ça comme ça.
Donc, on ne peut pas trop avoir d'espoir d'avoir un guacamole régional.
Pas du tout. Non, c'est quand même des grands arbres. J'en ai vu en vrai. C'est vraiment type, on va dire...
Un petit pommier.
Ouais, un grand bon pommier, quoi.
7h, 8h, les jardinières.
Ce matin, nous avons parlé des plantes qu'on offre volontiers pour les fêtes de fin d'année, comme par exemple les poinsettias ou les cactus de Noël, les hellebores. Vous retrouverez les conseils de Timothée en cours de matinée en podcast sur notre site. Timothée, avant de vous laisser filer préparer vos cadeaux de Noël, peut-être offrir des fleurs, est-ce que vous avez quelques tâches à proposer aux jardiniers et jardinières qui aimeraient passer du temps en extérieur?
Bon, alors, on peut bien sûr finir de ramasser les feuilles mortes, et puis on peut protéger son potager avec, si on a l'occasion, la possibilité du fumier ou du compost, et puis bien sûr, à défaut des feuilles mortes, ça fait du bien de protéger la terre pour l'hiver. On peut bien sûr continuer à récolter les derniers légumes comme les choux, les poireaux, enfin voilà, et puis on peut aussi gentiment commencer la taille hivernale, et puis rabattre les rosiers, enfin il y a plein de petites activités, on trouve toujours de quoi faire quand on a envie d'être dehors, et puis de prendre soin de son jardin. Sans neige, bien sûr.
Merci beaucoup, Timothée. On rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Timothée Grisel Paysage aux Verrières. On vous souhaite de belles fêtes et puis à l'année prochaine chez les jardinières.
Avec grand plaisir. Bonne fête à vous tous.
Merci, Timothée. La semaine prochaine, ne manquez pas le dernier rendez-vous en direct des jardinières. Ensuite, il vous restera les podcasts sur notre site. Ça, c'est si on vous manque trop. Samedi prochain, nous serons en compagnie d'Olivier Ribaud, pépiniériste à Port-Antruy. Comme d'habitude, vous avez toute la semaine pour nous envoyer vos questions en remplissant le formulaire disponible sur notre site ou alors un petit SMS. Bon week-end, Brian.
Bon week-end, Mylène.
Et bon week-end à toutes et à tous. Et on peut finir comme ça. Couvrez-vous bien.
7h, 8h, les jardinières.